omnipresent question, who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crées.
It's going to be legendary.
Culturez-vous, une émission pleine de culture, pleine de pop culture.
Kamoulox.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue chez Culture et vous, l'émission de culture de Radio Évasion. De culture oui, mais de pop culture, ou si vous préférez de culture populaire. Je vais vous préparer des émissions aux petits oignons. On aura du Bowie, des Daft Punk, des punks sans les Daft, de l'Indiana Jones, du nom de Zeus, du Jon Snow, quelques psychoses et j'en passe. Tout au long de l'année, on va passer en revue les artistes et personnages qui ont fondé et fait grandir cette contre-culture qui est aussi fournie qu'un sourcil d'Emmanuel Chin et aussi percutante qu'un kick de Chuck Norris. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est bien de Batman dont nous allons parler aujourd'hui. Mais entendons-nous bien. Nous allons parler de ses vies au cinéma et non de sa fabuleuse carrière au cœur des comics. Nous nous pencherons sur son évolution au fil des années, comment les acteurs et réalisateurs les ont transposés à l'écran avec, il faut bien l'avouer, plus ou moins de succès. Lors de la dernière émission, je vous avais parlé des versions mythiques de Tim Burton, le Batman de 89 et sa suite Batman Returns de 92. Je continue donc dans ma chronologie et nous arrivons en 95. Les connaisseurs le savent déjà, ce qui va suivre n'est pas franchement très reluisant. Mais ça fait partie du jeu, il faudra passer par quelques nanars avant de revenir au sommet. 95 donc. La Warner est déçue des bénéfices engrangés par le dernier Batman de Burton. Il décide donc de changer de réalisateur et de passer les commandes à Joel Schumacher. Burton avait pourtant été approché pour réaliser un troisième volet. Dans ce projet, le Batman aurait dû affronter de sacrés méchants. L'homme mystère, campé par Robin Williams et Double Face, interprété par Billy Dee Williams, aka Lando Calrissian, l'un des personnages cultes de la saga Star Wars. Et ce n'est pas fini. L'homme chauve-souris aurait même pu avoir encore deux autres ennemis et de choix. L'épouvantail, joué par celui qui a traumatisé toute une génération, Robert Englund, alias Freddy Krueger, et Sal Maroni, le mafieux sans scrupules, interprété par le grand Al Pacino. Mais on connaît tous le pouvoir du dollar à Hollywood. Ce projet de troisième opus par Burton passe à la trappe et c'est en tant que producteur que celui-ci continue de faire partie de la machine Batman. C'est donc Joel Schumacher qui reprend les rênes des aventures du Chevalier Noir. Décédé cette année, il était notamment connu pour avoir réalisé Chute Libre, Phone Game, 8mm et les fameux Batman Forever et Batman et Robin. Alors fameux, finalement je ne sais pas. Mais en tout cas, ils auront eu le mérite de faire parler d'eux.
Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? In an uncertain world, in a chaotic time, justice wears a mask.
Was better.
Love is a game.
What is it about the wrong kind of man?
It's the car, right? Chicks love the car.
Power is a machine.
Now you've devised a way to read men's minds.
By the way, I've seen your mind.
Le premier des deux volets, c'est Batman Forever. Il sort en 95 et réunit Val Kilmer, qui joue le Batman, Tommy Lee Jones, le double face, et Jim Carrey, l'homme mystère. On retrouve aussi Nicole Kidman qui interprète le rôle du docteur Chase Meridian, la psychologue qui allumera la flamme du héros masqué. Dans cette version, on sort complètement du cadre établi par Burton lors de ses précédents films. On passe d'un univers sombre et fantastique à un décor surcoloré et à des personnages sous acide et on peut le dire foncièrement creux. Les fans ont du mal à se positionner. C'est un véritable retour en arrière, hommage à la série des années 60 où réelle volonté de faire un pur blockbuster, le résultat est là, un film sans relief ni profondeur. Petite pensée à Jeff Goldblum qui a dû se dire qu'il avait finalement bien fait de ne pas prendre le rôle de l'épouvantail pour ce film. Mais peut-être aurait-il pu détendre l'atmosphère apparemment électrique créée par Tommy Lee Jones. En effet, l'acteur était paraît-il exécrable avec son partenaire de jeu Jim Carrey qu'il ne supportait pas. Mais passons ces bruits des couloirs et revenons-en à nos nanars. Nanar peut-être, mais on soulignera tout de même que Batman Forever a été nommé aux Oscars. Oui, oui, vous avez bien entendu, nommé aux Oscars et dans trois catégories s'il vous plaît. Meilleure photographie, meilleur son et meilleur montage sonore. Bon, il n'aura rien remporté, mais tout de même.
Vous êtes bien, on est bien. Venez, c'est bien. Culturez-vous, présenté par Audrey.
En parlant de nomination, je vais à présent vous présenter la suite de Batman Forever, le bien nommé Batman et Robin, sorti en 1997. Lui aussi a été nommé, mais aux Razzie Awards. Alors, il faut savoir que les Razzie Awards récompensent les plus gros navets. En gros, c'est une caricature totale des Oscars où les professionnels d'Hollywood prient pour ne jamais y être nommés. Mais Batman et Robin auraient dû prier plus fort. Nominé dans 9 catégories sur 14, il est directement catalogué dans la case nanar à ne surtout pas voir.
My name is Freeze. Learn it well. For it's the chilling sound of your doom.
This is the way the world could end.
Please, show some mercy.
With ice. With a kiss.
With venom. I probably should have mentioned this. I'm poison. Poison ivy.
And the only man who can stop them.
I Freeze. I'm Batman.
Can't do it alone.
Pourtant, on aurait pu se dire qu'ils étaient bien partis. George Clooney en nouveau Batman, Schwarzenegger en méchant Mr. Freeze, Uma Thurman en Poison Ivy et dans le rôle de Robin, le fidèle acolyte de Batman, Chris O'Donnell. Mais non, encore une fois, trop. Trop de couleurs, trop de jeux de mots lourdingues, trop de bagarres en carton et je ferai l'impasse sur l'arrivée de Batgirl qui enfonce le clou du nanarisme. Malgré de très bonnes recettes au box-office, la Warner est quelque peu refroidie quant au retour désastreux des critiques. C'est pourquoi elle attendra 8 ans avant de relancer la machine Batman. Mais avant de faire notre saut dans le temps et nous plonger dans l'univers du génial Christopher Nolan, on va s'écouter le titre de la bande originale de Batman et Robin, composée par les Smashing Pumpkins, « The Beginning is the End is the Beginning ».
Thank you.
Nous revoilà sur Radio Évasion. Vous écoutez toujours Culturez-vous, l'émission qui vous parle de pop culture et qui aujourd'hui vous amène à la découverte du Batman sur grand écran. Si en première partie d'émission, nous sommes revenus sur les nanars de Joel Schumacher, nous allons maintenant parler de la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight. 1999. Suite aux critiques désastreuses du dernier Batman de Schumacher, la Warner décide d'annuler son projet de nouveau film avec ce réalisateur. Elle se tourne tout d'abord vers les sœurs Wachowski qui ont finalement refusé le projet pour réaliser les suites de leur cultissime Matrix. Clint Eastwood a également été approché pour un projet, disons, décalé. Une version senior du Batman qui formerait un petit jeune au dur métier de super-héros. Projet avorté et c'est peut-être pas plus mal. C'est donc Christopher Nolan qui remporte la timbale et devient le nouveau réalisateur de l'homme chauve-souris. Nous sommes en 2005, soit 8 ans après la dernière version du Batman, quand Nolan sort le premier volet de sa trilogie mythique, celle du Dark Knight. À cette époque, Nolan a déjà réalisé 3 longs-métrages, dont Memento et Insomnia. Ces films lui ont permis de taper dans l'œil de la Warner et de se lancer dans le projet d'envergure Batman. Toujours accompagné de son frère Jonathan Nolan, avec qui il travaille depuis toujours, il élabore un scénario pour un Batman beaucoup plus réaliste et surtout nettement plus humain. On retrouve au casting étoilé Christian Bale dans le rôle du Batman, Michael Caine dans celui d'Alfred, le majordome de Mr. Wayne, Liam Neeson dans celui de Ra's al Ghul, le mentor du Bat, et Cillian Murphy, alias Thomas Shelby, en épouvantail psychotique. Mais ce n'est pas tout. On a aussi un Gary Oldman au sommet de sa forme en Commissaire Gordon, Morgan Freeman en Lucius Fox, et pour les grands fans du genre, on a même droit à une petite apparition du sadique Joffrey Baratheon de Game of Thrones en petit garçon tout mignon.
Tu as parcouru le monde. À présent, c'est toi qu'il te faut découvrir. Ce que tu crains le plus est en toi. Impossible d'y échapper.
Tu n'es pas responsable de la mort de tes parents.
L'entraînement n'est rien. Seul compte, ta volonté.
Si tu parviens à dépasser ta condition d'homme, si tu te consacres à un idéal, tu deviendras tout autre. Es-tu prêt à te lancer ?
Comme son nom l'indique, Batman Begins aborde la naissance du super-héros. Et pour résumer l'histoire, ou plutôt pitcher, comme dirait Laurent Veil, Batman Begins, c'est l'histoire du jeune Bruce Wayne qui devient adulte et décide de voyager aux quatre coins du monde pour étudier la criminologie, les arts martiaux et aussi se reconstruire autour de sa soif de justice. Après quelques mauvaises rencontres, il est recueilli par Ra's al Ghul, leader de la Ligue des Ombres. C'est une sorte de secte de ninja qui va le former et faire sortir le super-héros qui est en lui. Mais attention, hein, pour le coup, on est clairement plus dans la version dérive sectaire que dans celle des bisounours de chez Karate Kid. Pour preuve, c'est le même Ra's al Ghul qui essaiera ensuite de détruire entièrement la ville du Batman, Gotham City. Nolan voit sombre et met en avant les côtés obscurs et torturés du héros. C'est notamment grâce à cette approche que le réalisateur a réussi à rebooster la franchise et à en faire un film salué par le public et la critique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Christopher Nolan, laissez-moi vous le résumer en quelques chiffres. 20 ans de carrière, 19 films, 38 nominations aux Oscars, BAFTA et autres César, et enfin plus de 69 millions d'entrées au cinéma, rien que ça. Plus qu'un simple réalisateur, c'est une véritable machine de guerre. C'est le genre de gars qui, en l'espace de 7 ans, va te réaliser les 3 Batman, le très bon Le Prestige et l'inégalable Inception. Un rouleau compresseur, on vous dit. Allez, avant de continuer sur le sujet, on va s'écouter un petit extrait de Daft Punk avec le titre « Je vous le donne en mille, super-héros » de l'album Discovery.
Yeah.
retour sur Culture et vous, l'émission de pop culture de Radio Évasion. On continue notre voyage au cœur de la trilogie du réalisateur de génie Christopher Nolan. Chacun de ses films est aussi attendu que les cadeaux du gros bonhomme rouge un soir de Noël. Et en plus de satisfaire les fans et autres curieux, Nolan se paye le luxe de mettre tout le monde d'accord. Critiques, studios et acteurs. Jouer dans un Nolan, c'est pour eux la garantie d'un succès énorme, mais aussi d'une crédibilité auprès de ses pairs. Mais il n'est pas chose aisée de rentrer dans le cercle fermé du réalisateur. Il a en effet ses acteurs fétiches, Christian Bale et Michael Caine en tête. Christian Bale, justement, est ce qu'on peut appeler un acteur caméléon. Il est connu pour faire subir à son corps des prises et des pertes de poids impressionnantes. Le tournage de Batman n'a pas échappé à la règle. Christian Bale sortait du tournage du film The Machinist et pesait alors tout juste 55 kilos. Forcément, une carrure pas vraiment, vraiment adaptée à l'image qu'on peut se faire du super-héros. Aucun problème, en l'espace de 4 mois, cet acteur hors norme a réussi à reprendre 45 kilos de muscles. C'était même un peu trop pour le réalisateur, alors après avoir été surnommé Fat Man par ses chers collègues de tournage, Christian Bale est finalement redescendu à 86 kilos pour assurer le rôle. C'est donc un Batman en grande forme que l'on retrouve. Et pourtant, à la base, le Batman ne devait pas forcément être incarné par Christian Bale.
Vous êtes bien, on est bien. Venez, c'est bien. Culturez-vous, présenté par Audrey.
Pour le rôle, la Warner avait en effet proposé de nombreux jeunes acteurs aux réalisateurs. Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson et même Henry Cavill, aka Superman, ont été approchés. Mais dans le genre acteur évincé du rôle principal, on retrouve au casting un autre des acteurs fétiches de Nolan, Cillian Murphy. Malgré un vrai coup de cœur du réalisateur pour l'acteur irlandais, ce n'est pas en tant que Batman qu'il le fera tourner, mais en grand méchant épouvantail. Un rôle qu'il retrouvera dans le second volet de la trilogie The Dark Knight. Mais si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'aurait pu donner Thomas Shelby en mode Batman, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil aux extraits des castings qui sont dispos sur les internets. Nous sommes en 2008 quand sort la suite, tant attendue de Batman Begins, Batman The Dark Knight.
Par où allons-nous commencer ?
Il y a un an, aucun de ces flics, aucun avocat n'aurait osé vous trahir. Je peux savoir ce qui s'est passé.
Alors, qu'est-ce que vous proposez ?
C'est très simple. Tuer le Batman. Voici ma carte.
Bruce, voici Harvey Dent.
Grâce à Rachel, je sais déjà tout de vous.
Pas tout, je l'espère.
Tu m'as dit un jour que nous serions ensemble. Tu le pensais ?
Bruce, ne fais pas de moi ton seul espoir de vivre une vie normale.
Vous êtes Alfred, exact ?
Exact, monsieur.
Aucun ex-fiancé psychotique à me signaler.
Non, si vous saviez.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Hey, salut, ma beauté. Vous semblez nerveuse.
J'ai compris ce que je dois devenir pour arrêter des hommes tels que lui.
Pour ce nouveau volet, Bruce Wayne continue d'affronter le crime de Gotham City, incarné par différents mafieux de la pègre. Appuyé par le procureur sans peur et sans reproche Harvey Dent et l'incorruptible commissaire Gordon, le Batman est encore en lutte avec lui-même, mais continue de croire en une justice saine et stable. C'est sans compter sur l'arrivée d'un psychopathe bien décidé à détruire ces images de chevaliers blancs campés par le procureur et la chauve-souris. En plus d'un goût certain pour un sadisme assumé, le Joker est prêt à tout pour confronter les héros à leur démon intérieur. À l'excellent casting du Batman Begins que l'on retrouve pour cette suite, s'ajoute un nouveau personnage, le Joker. Inoubliable, inimitable, magistral, voilà comment peut se résumer la performance du regretté Heath Ledger. Décédé l'année de la sortie du film, il recevra une trentaine de prix pour sa performance, dont l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume.
To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. I'm dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve.
Ce rôle aura littéralement habité l'acteur. Pendant des mois, il s'est fondu dans la peau de son personnage, allant jusqu'à s'enfermer dans un hôtel pendant 6 semaines avant le tournage afin de mieux percer la personnalité de ce psychopathe en puissance. Sur le tournage, l'acteur va jusqu'à créer lui-même son maquillage à base de produits Eco Plus achetés dans le 8 à 8 d'à côté. Les maquilleurs professionnels ont ensuite créé la réplique du motif grâce à du silicone, ce qui leur a permis de garder l'exact modèle du maquillage pour la suite du tournage. Heath Ledger aura également tenu des journaux intimes tout au long de cette immersion. Il y consignait toutes ses pensées les plus sombres et les plus barrées. Il imaginait par exemple ce qui aurait pu faire rire le Joker, comme le sida, des bébés aveugles ou les mines antipersonnelles, tout un programme quoi. Mais dans ce monde de brut, on notera quelques touches de douceur, notamment dans la scène de l'hôpital où le Joker rend visite à Double-Face déguisé en infirmière. Si vous regardez bien son costume, vous y verrez le nom de sa petite fille Mathilda inscrit sur son étiquette. Alors oui, on peut être un Joker complètement barré, mais aussi un véritable papa poule. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Joker sans évoquer l'excellent Joaquin Phoenix, vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation.
Nothing can hurt me anymore. My life is nothing but a comedy.
Allez, on continue avec Nolan pour cette dernière partie et on reprend avec le Dark Knight. Avec ce film, il réussit à faire d'un pur blockbuster à 1 milliard de recettes un thriller sombre en bonne et due forme qui interroge sur les dérives de la société. Le personnage du Joker rêve ici de chaos et d'anarchie, de mettre en avant une humanité bafouée et corruptible et surtout de remettre en question le statut du héros. Au-delà d'un film classique de super-héros, le réalisateur parvient à faire passer des messages politiques et à questionner sur nos propres représentations de la société. Et pour ça, on lui dit merci. Allez, on part maintenant en 2012, année de sortie du dernier volet de la trilogie Dark Knight Rises. Nouveau film, nouveau casting 5 étoiles. Pour ce dernier volet, Christopher Nolan réunit son équipe de départ, Christian Bale, Michael Caine et Gary Oldman. Mais il y ajoute, accrochez-vous bien, un Tom Hardy en Bane, un Golgoth bourrin sous respirateur, prêt à tout pour soulever Gotham et son peuple, une Anne Hathaway en Catwoman badass à souhait, une Marion Cotillard en grande protectrice de l'environnement et un Joseph Gordon-Levitt en policier dévoué. En gros, nous sommes avec le casting quasi complet d'Inception. Quand je vous dis que Nolan est ses chouchous...
Vous m'êtes aussi cher que vous l'étiez à vos pères et mères. Je leur avais fait le serment de vous protéger et je ne l'ai pas fait.
Le maire va le larguer au printemps.
Vraiment?
Mm-hmm.
Mais c'est un héros.
Héros de guerre. Mais nous sommes en paix.
Vous croyez que ça peut durer? La tempête menace, Monsieur Wayne. Vous avez intérêt à fermer les écoutilles, vous et vos amis. Parce que quand ça éclatera, vous demanderez comment vous avez cru pouvoir vivre la grande vie et laisser vivoter le reste d'entre nous.
Ça veut dire, lève-toi.
Quand Gotham sera en cendres, je t'autoriserai à mourir.
Pour ce dernier volet, les frères Nolan continuent de mettre en lumière les travers d'une société divisée et déséquilibrée. On a d'un côté une population pauvre, intoxiquée et à bout de souffle, et de l'autre, une vie opposée composée de notables aisés loin des problèmes du petit peuple. Il suffisait de l'étincelle Bane pour embraser le peuple et déclencher une véritable révolution. Le scénario des deux frères est largement inspiré d'un roman de Charles Dickens, Le Comte des deux cités. Il dépeint l'histoire d'un Batman disparu des radars depuis 8 ans, qui s'accuse lui-même d'un crime qu'il n'a pas commis, celui d'Harvey Dent, alias Double-Face, et passe de héros de la cité à paria de la société. Mais la chauve-souris doit sortir de sa caverne quand apparaît la brute révolutionnaire, répondant au nom de Bane, bien décidé à faire exploser tout Gotham et à détruire son idole déchue. Et bien sûr, viendront à s'ajouter à ça deux figures féminines de poids, une Catwoman dans le genre Arsène Lupin des temps modernes et une Miranda Tate, grande bienfaitrice de l'environnement. Genre militante, mais sans les dreads et les sarouels en main. En tout cas, tout est là pour envoyer du bois. Et on peut dire que cette conclusion à la trilogie Batman gagne son pari. Encore une fois, Nolan réussit son coup. Un film excellent sur tous les plans. Scénario, effets spéciaux et acteurs font de ce film un des blockbusters qu'on aime voir et revoir quand il est diffusé. Les acteurs, justement. Si on peut souligner la performance de Tom Hardy, qui a réussi à prendre 14 kilos de muscles en seulement 3 mois, on peut aussi parler de la fameuse scène de Marion Cotillard. Alors attention, je préfère vous prévenir tout de suite que si vous n'avez pas vu le film, ce qui va suivre va vous spoiler. Ou si vous préférez, on va vous raconter la fin. La fameuse scène donc de la mort de Marion Cotillard. On en parle aussi parce que même si on sait que les Batman, quel qu'il soit, créent la polémique, dans le genre déferlement de critiques, on est sur un très très gros niveau. Responsabilité de l'actrice pour son jeu ou du réalisateur qui a eu la bonne idée de garder cette prise lors du montage final, tous les polémistes ont un avis. Après bon, c'est vrai que quand on voit cette scène, la première question qui vient c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là ? On peut aussi saluer l'autodérision de Marion Cotillard sur cet événement dans l'excellente mini-série de Pierre Ninet Casting où elle se fait clasher par le rappeur Orelsan.
Allez Orelsan, tu te lances.
Même Hollywood peut rien y faire, t'es face à une légende. J'ai pas les effets spéciaux d'Odier, mais je te baise et tu sens plus tes jambes. Et je vole ton Oscar quand je te ken. Je porte en pendentif, c'est qu'une fois de plus où je te vois et je change de chaîne. Ton dernier bon film c'était Taxi. Madame, la seule chose moins crédible que ton rap c'est ta mort dans Batman.
C'est nul.
Avant de conclure cette émission, si le cœur vous en dit, je vous laisse aller jeter un coup d'œil aux suites qui ont été données à la trilogie de Nolan. Nous avons tout d'abord Batman vs Superman en 2016, puis Justice League un an plus tard. Ces deux blockbusters, réalisés en partie par Zack Snyder, nous présentent un Batman interprété par Ben Affleck et entouré de moult super-héros avec moult super-pouvoirs. Et pour la première fois à l'écran, vous verrez le Bat combattre Superman avec ses nouveaux super poteaux, Aquaman, Flash, Wonder Woman et Cyborg. Alors certes, je ne peux pas développer plus sur ces films, déjà parce que je n'ai pas le temps, mais aussi parce que ce n'est pas vraiment un drame pour moi. Mais bon, je vous laisse seul juge quant à ces nouvelles versions. Espérons seulement que le prochain Batman de Matt Reeves saura remettre à niveau le mythe du Chevalier Noir. Dans cette version, il sera campé par Robert Pattinson, oui, le vampire de Twilight, et aura pour compagnon de jeu Zoe Kravitz en Catwoman et Colin Farrell en Pingouin. La sortie est prévue pour mars 2022. Mais avant de voir tout ça, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission sur Radio Évasion, qui sera ce coup-ci consacrée au punk. Alors préparez vos Doc Martens et vos crêtes à paillettes, les Berus et consorts seront de la partie. En attendant, je vous fais des bisous, des bécos, et vous dis à tantôt.
Omnipresent question. Who exactly is Banksy?
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
You know nothing, Jon Snow.
Toi tu crées.
It's going to be legendary.
Ghostbusters! Camoulox!
Ouais, c'est pas faux.